VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Dakar, midi à Bangui. Bienvenue à notre journal. Les États-Unis sont contre un troisième mandat du président rwandais Paul Kagame. Une position que Washington a déjà adoptée par le passé face à des situations similaires, notamment au Burundi et en RDC. Les explications du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines Robert Jackson sur la situation au Rwanda au micro de Nicolas Pinault.
En ce qui concerne le Rwanda, nous comprenons que 3 millions de personnes ont signé une demande que le Rwanda change sa constitution afin de permettre le président Kagame de se présenter pour un troisième mandat de 7 ans. Nous croyons que la démocratie est mieux avancée à travers le développement des institutions fortes et pas d'hommes forts et comme le secrétaire d'État, M. Kerry, a dit à plusieurs reprises, nous ne soutenons pas le changement de constitution afin de permettre une personne ou une partie d'avancer le propre intérêt et pas les intérêts du pays.
Pour parler clairement, Washington n'est pas favorable à une troisième candidature de Paul Kagame pour 2017.
Nous préférons que le Rwanda ne change pas la constitution. C'est ça. Nous croyons qu'une transition démocratique en 2017 serait une bonne chose.
Robert Jackson, sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Au Burkina Faso, pléthore de candidats à la présidence. Rien que le week-end écoulé, 3 prétendants de plus se sont manifestés. Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement et ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré. Adama Kanazoé, président du bureau politique de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, et Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Ce qui porte déjà à 8 le nombre de candidats. Des précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Le week-end dernier à Ouagadougou, pour nous les hommes de médias, il fallait pratiquement avoir le don de l'ubiquité pour pouvoir couvrir les différentes rencontres politiques d'investiture de candidats. Commençons alors avec le collectif Natama 2015, un regroupement de partis politiques et d'associations proches de l'idéal de Thomas Sankara. Comment alors comprendre qu'il y ait 2 candidatures sankaristes alors que Mariam Sankara a donné sa caution au candidat de la convention? Écoutons ce qu'en dit Arnaud Marais, membre du comité de pilotage du collectif Natama 2015.
Pour avoir été un peu proche de la procédure ou du processus qui a conduit à la convention sankariste, je mets des réserves. Maman Mariam Sankara est dans son rôle, en ce sens qu'elle apporte sa caution morale à toute initiative, à tout élan qui se réclame de l'idéal sankariste. Elle est parfaitement dans son rôle. Elle aurait pu être des nôtres si elle était encore là, pourquoi pas. Pour nous, choisir d'en appeler à la candidature de Jean-Baptiste Natama, c'est reconnaître que l'homme est un homme de valeur, est un homme du renouveau, puisque nous sommes dans un contexte de renouveau sankariste. C'est en cela que nous estimons que M. Jean-Baptiste Natama est notre candidat qui incarne une alternative viable.
Voici comment Jean-Baptiste Natama lui-même explique sa candidature.
Je suis le candidat du changement. Je le reflète par ma virginité politique qui montre que je suis ce nouveau leader que la jeunesse du Burkina, le peuple du Burkina Faso attend. Le sankarisme, on ne l'a jamais codifié, mais je sais tout simplement que la référence au président Thomas Sankara fait allusion à son comportement, à son style d'action politique.
Au même moment, l'Agir, Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, a investi Adama Kanazoé pour la course à la présidentielle. Voici ce qui le motive.
Je vais être président pour permettre au Burkina Faso de connaître un nouveau modèle de développement. Un modèle de développement qui sera basé essentiellement sur ses forces. Et sa principale force, c'est son capital humain. C'est cette jeunesse-là, massive. Cette jeunesse-là également qui est une force de travail qu'il faut savoir exploiter pour permettre à notre pays de connaître des vrais pics de croissance.
Au jour d'aujourd'hui, les intentions présidentielles affichées sont au nombre de 8, dont 3 militaires. 4 des partis politiques et un candidat indépendant. Mais les rangs vont continuer à grossir encore, car il reste plusieurs partis qui s'apprêtent à investir leurs candidats. Zoumana Ronogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Niger, le secteur de la justice sera paralysé cette semaine. Motif, la grève de 5 jours du syndicat des agents de la justice à partir de ce lundi pour contraindre le gouvernement à satisfaire ses revendications. Le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Composé essentiellement de greffiers, maillon important dans la chaîne judiciaire, le syndicat national des agents de la justice entend par ce mouvement de grève de 5 jours amener le gouvernement à satisfaire à un certain nombre de revendications de ses membres, Abdoulaye Amadou et les secrétaires généraux du syndicat.
La réorganisation de la carrière des greffiers, elle a aussi des avantages qu'elle va nous accorder, mais ce qui est important, c'est la réorganisation de la carrière. Tant que le décret d'application n'a pas été fait, ça veut dire que cette loi n'a aucun sens. Le deuxième point, c'est celui relatif au paiement des incidences et des salaires. D'abord, les incidences par rapport aux indemnités et les rappels des salaires des camarades. Il y a aussi les salaires des camarades. Donc, certains ont été nouvellement engagés au niveau donc, de la justice. Il y a leur rappel des salaires qui sont encore demeurés jusqu'à aujourd'hui incertains. Mais nous avons remarqué qu'il y a certains qui ont été déjà satisfaits, ce qui veut dire qu'il y a une discrimination à ce niveau.
Malgré le fait que le préavis de grève ait été déposé depuis la semaine dernière, le gouvernement n'a pas daigné appeler les responsables syndicaux à la table de négociation, comme le confirme Chebou Kadadé, secrétaire général à la négociation du Ben Snaj.
Les négociations n'ont pas marché avec le gouvernement. Il n'y a même pas eu un simulacre même de négociation. Parce que ce qu'ils nous ont proposé, là, ce n'est pas des choses qui peuvent être même connues du public. Ce qui est important que vous disiez, maintenant, aucun point de la plateforme n'a été satisfait. Et c'est pour cela que nous avons tenu à déposer un nouveau préavis de grève de 5 jours jusqu'au vendredi, que la grève va être exécutée.
C'est le énième débrayage de ce syndicat en l'espace de quelques mois. Il compte rééditer ses mouvements de grève jusqu'à satisfaction de ses revendications. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
En Algérie, il va falloir attendre quelques mois de plus pour entendre les accusés dans une grande affaire de corruption impliquant le géant pétrolier Sonatrach. Leur procès, prévu hier, a été de nouveau ajourné, chez Rubin Dorsil.
Il faut d'abord souligner que ce n'est pas le premier report dans ce procès. Déjà en mars, le juge Mohamed Regad avait dû prononcer un ajournement pour absence de témoins. Hier, des 108 témoins attendus à la cour, une trentaine n'avait pas répondu à l'appel. Après une trentaine de minutes de délibération, le juge a annoncé le report du procès à la prochaine session qui s'ouvre à la fin de l'été. Les accusés, au nombre de 19, 15 personnes et 4 sociétés, sont poursuivis par devant la cour criminelle d'Alger pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, blanchiment et corruption.
En Turquie, le parti islamo-conservateur AKP du président Recep Tayyip Erdogan a essuyé un sérieux revers aux élections législatives d'hier. L'AKP perd sa majorité absolue détenue depuis 13 ans au Parlement, mettant ainsi fin aux espoirs du chef de l'État de renforcer son pouvoir sans partage à la tête du pays. Jacques Aristide.
Le Parti de la Justice et du Développement, AKP en cours, est tout de même arrivé en tête du scrutin, mais n'a recueilli que 40,7% des suffrages et 258 sièges de députés sur 550, d'après les résultats définitifs. Ce qui contraint l'AKP pour la première fois à former un gouvernement de coalition, rapporte l'AFP.
Deuxième et dernier jour du sommet du G7 en Allemagne, au programme des participants, entre autres, des consultations avec leurs homologues des pays africains, notamment le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari, qui a fait de la défaite du groupe islamiste Boko Haram une priorité de son mandat. Concernant le conflit ukrainien, le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré hier que les sanctions économiques contre la Russie pourront être atténuées seulement si Moscou respecte totalement le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Des précisions avec Timothée Donangmaï.
Les deux leaders se sont rencontrés en marge du sommet du G7 dans un village des Alpes bavaroises, un sommet dont est exclu pour la deuxième année consécutive le président russe Vladimir Poutine, dû à l'annexion par son pays de la péninsule de Crimée. Les 7 participants sont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Canada et le Japon. Madame Merkel a déclaré à la presse allemande que Moscou devrait être écarté du groupe des 7 à cause de ses actes en Ukraine. De son côté, le président du Conseil de l'Europe, Donald Tusk, a fait savoir que l'UE et les leaders du G7 ne devraient pas vaciller dans leur soutien à Kiev face aux séparatistes pro-russes.
Toujours concernant le G7, le premier ministre irakien Haider al-Abadi doit s'entretenir avec le président Barack Obama aujourd'hui en marge du sommet au sujet de la guerre contre le groupe État islamique. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.